Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 67e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu, une sélection de l'actu que je co-anime avec mon ami Caféine. Salut Caféine.
Salut Fesquille, ça va bien?
Écoute, ça va et toi?
Bah écoute, depuis que j'ai mis le bon potard sur le bon truc là, ça devrait aller mieux parce que apparemment je suis un peu fatigué aujourd'hui et les tables de mixage, il y a beaucoup de boutons, on se rend pas compte comme ça. Hein.
C'est compliqué tout ça, c'est du travail.
Wow, je promets rien, mais on est là, on est présent.
Allez, on va commencer tout de suite avec le gaming Skyforce Reloaded. Tu vas nous parler d'un shmup.
Un petit shoot 'em up à l'ancienne, ou alors enfin à l'ancienne remasterisé. Skyforce Reloaded, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Vous connaissez forcément ce jeu si vous avez téléchargé les trucs mobiles pour vous dire tiens, j'ai un nouveau téléphone, je voudrais bien voir ce que ça fait. Parce que c'est un produit qui existe depuis 2006, donc c'est pas vraiment nouveau, mais la version Reloaded, évidemment, comme les versions Reloaded en général, c'est un remake modernisé pour l'occasion. Et c'est un petit produit qui est fait par Infinite Dreams, qui est un petit studio, qui a décidé de le balancer partout. Donc ça se trouve actuellement en promo à 5 balles sur Steam, par exemple. Mm-hmm. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des versions sur PS4, Switch et compagnie. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est la version mobile. Parce qu'évidemment, j'ai fait exactement comme vous. J'ai un nouvel iPad Pro, donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais installer comme jeux qui sont absolument pas pro et des trucs pas du tout pour travailler, pour tester la bête. Il a fait partie de ma sélection et du coup la surprise c'est que c'est pas tant c'est un shoot 'em up hyper classique, mais je voulais en parler parce que ils ont résolu le problème qui était un souci sur tous les jeux du genre pendant des années, et c'était un des premiers à faire ah, en fait c'est chiant, il y a pas de bouton de tir sur votre téléphone et on va pas vous demander de faire tac 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 sur l'écran, ça va être hyper relou. Donc en fait votre vaisseau il tire tout le temps, tout seul. Mmh. Et c'est beau, la technologie, parce que t'as pas besoin de t'emmerder à faire quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste bouger le vaisseau pour éviter les boulettes de l'ennemi, parce que, voilà, c'est un shoot 'em up, hein, on connaît tous le principe. Et vous ramassez les bonus. Voilà, vous ramassez les bonus, vous devenez de plus en plus puissant et vous explosez tout. C'est assez joli dans cette version Reloaded. Franchement, c'est assez réussi. Après, ils ont un petit problème parce que bon, le gameplay est simple. Du coup, ils se sont dit on va mettre une histoire, ça va être drôle, funky, lol. Faut engager des gens qui savent écrire quand tu veux faire ça.
Allez.
Parce que voilà, c'est les personnages font des blagues et tout et c'était pas obligatoire. C'est pas très bon en fait, hein. Voire assez mauvais très vite. Donc bon, en tout cas, c'est rigolo. Ça coûte 0 balles. Il est en promo. Ou gratuit ou avec des achats in-app en fonction des plateformes, donc faites gaffe. Mais moi j'ai rien payé pour y jouer sur iOS et tester la bestiole, et il n'y a pas vraiment besoin, enfin il y a du grind, hein, si vous voulez tout débloquer, je vais pas vous mentir, hein, c'est un free to play sur mobile. Mais voilà, pour vous amuser entre deux rames de métro, c'est à connaître, et si vous avez des références dans le genre et qui vous semblent encore meilleures, n'hésitez pas à balancer. Moi j'avais des adaptations de jeux Jap super bien, mais qui n'ont pas été adaptées à iOS 12, donc je pleure du sang. En attendant, je me concentre seul avec ça, mais si vous avez des références, allez-y, le forum est ouvert.
Et on reparle du concurrent de PUBG, Ring of Elysium, ça y est, il est enfin sorti.
Ouais, ils ont retrouvé le service tu sais, les lawyers, les avocats pour dire, attendez les gars, le RGPD, comment on va s'en sortir? Alors, ils s'en sont sortis en mettant un truc pour data miner vos informations en Irlande, mais du coup, ce petit Ring of Elysium est enfin disponible depuis cette semaine chez nous, c'est sur Steam, il aurait, parce qu'on n'a pas vraiment des chiffres Tencent, tu vois, ils sont pas hyper friands de balancer ce genre d'informations, mais a priori, il y aurait 4 millions de downloads aux États-Unis pour l'instant.
C'est pas mal.
C'est pas mal, mais c'est pas fou pour un free-to-play. Ouais, hein. On se rappelle que notre ami PUBG avait fait très rapidement 30 millions de ventes, donc ils ont un bon début, mais c'est pas monstrueux, mais la concurrence n'est pas la même de nos jours qu'à l'époque de la sortie de PUBG, on est bien d'accord. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que cette version est bien, bien plus intéressante que le truc Asiat auquel on avait fait des guides sur Geekzone parce qu'on est un peu des nerds, tu vois, quand on s'y met. Mais cette version Steam, elle est beaucoup plus polish, c'est beaucoup plus propre, ça fait pas mal aux doigts quand tu passes sur les côtés et tout, c'est vachement bien. Ça a été poncé, donc du coup le moteur graphique est plus réussi, ils ont travaillé, donc quand on monte tout à fond, c'est vraiment pas mal. Ils ont rajouté un créateur de perso façon MMO qu'on avait déjà, qui est encore plus joli, etc., qui sert strictement strictement rien. C'est parce ça, que oui. Si vous voyez la gueule d'un perso adverse,
c'est qu'il est déjà trop tard.
Voilà. Évidemment, ils ont un système de passe à 10 balles. Enfin, tu achètes de la monnaie in-game comme dans Fortnite au hasard, qui va débloquer un passe avec des challenges comme dans Fortnite. Merci les gars, c'est exactement pareil. Et du coup, vous avez des skins, etc., mais qui n'ont pas du tout le même intérêt que dans Fortnite. Surtout que là, il y a maintenant enfin un mode FPS qui n'est pas parfait. Le mode TPS, on sent que c'était vraiment le mode par défaut. Quand on est au mode FPS, acheter des skins à Wattmill, c'est un peu comme sur PUBG. J'ai jamais bien compris l'intérêt, à part bien être visible dans les buissons. Et puis, évidemment, vous avez la problématique que le jeu est dispo en Europe. Ça y est, c'est sorti, mais les serveurs européens, pour l'instant, je les ai pas vus allumer encore. Donc, on est obligé d'aller jouer sur les serveurs américains. Non, on les voit dans la liste et tout. Puis, il y a marqué, là, tu peux pas y aller. Sachant qu'hier, quand ils ont fait la grosse mise à jour, ils ont donné les serveurs pendant 2 heures, un truc comme ça. Et du coup, ils n'ont pas prévenu. Donc, les gens pensaient que ça se connectait pas, dont moi. Et du coup, tu as sur Steam plein de gens qui sont le truc support, qui sont pas très, très contents. Donc, peut mieux faire en termes de communication en attendant. Mais voilà, c'est dispo, c'est joli, c'est gratos. Si vous avez pas claqué 30 balles chez PUBG, si vous avez pas claqué d'argent sur le mode blackout de Call of Duty, dont on parlera en fin de podcast, Activision, coucou. Franchement, ça s'essaye et ça devrait vous faire marrer, sachant qu'ils ont eu des bonnes idées. Il y a un snowboard qui fonctionne pas trop mal. Ils sont pas emmerdés avec la physique des véhicules, donc du coup, ça roule plutôt bien, puisque évidemment, ça ne glisse pas sur la neige. C'est une map enneigée. S'ils avaient géré la physique, ça aurait été compliqué, avec les voitures pour aller loin. Et dernièrement, ils ont changé le système de start. Donc, on débute pas depuis un avion en sautant sur la carte. On choisit une zone directement sur la carte et on démarre.
À la Battlefield, quoi.
Voilà, et on démarre avec un pack et on voit où les gens vont, où il y a des concentrations de gens, en fait.
D'accord.
Ce qui permet de choisir un petit coin à l'ombre, tranquillou, pour commencer sa partie si vous n'avez pas envie de vous fighter tout de suite. Donc voilà, il y a quelques bonnes idées et franchement, je pense que le truc est là pour rester. Donc c'est à installer, ça doit faire 5-6 gigas. Donc par rapport au gros du genre, c'est pas très lourd. Donc voilà, allez voir ça.
Et on vous linkera donc le papier qu'on avait écrit à l'époque, enfin que tu avais écrit à l'époque sur le jeu, sur Geekzone. On parle d'un jeu de cartes, un nouveau jeu de cartes apparemment assez hardcore, Artifact.
Alors Artifact, on en a déjà parlé, c'est hyper connu par les fans de Dota 2 puisque c'est le nouveau TCG, Trading Card Game de notre ami Valve, qui est basé sur Dota 2, qui est streamé par à peu près toute la sphère Dota 2 actuellement. Les mecs sont là genre, génial, le mélange de Hearthstone et Dota, ça va être génial, etc. Donc j'ai regardé quelques games, j'ai regardé des vidéos françaises faites par exemple par la Frogan TV, des petits gars qui sont bien, qui font les trucs Dota 2 en français chez nous. J'ai pas compris grand chose, dis-moi.
C'est pas bon signe, ça.
Alors, j'exagère, j'ai figé les règles et tout, mais c'est ultra compliqué. En fait, ils ont vraiment voulu adapter, et ça, je l'avais déjà dit dans un podcast un peu plus ancien, ils ont voulu adapter le système de lane au jeu de cartes. Donc, les lanes, c'est quoi? Sur Dota et sur tous les MOBA, vous vous battez sur plusieurs chemins sur la carte. Et du coup, ils ont fait plusieurs plateaux de jeu sur leur jeu de cartes.
Ah oui, c'est pour les poulpes, en fait.
Voilà. Donc, en fait, tu peux être sur la lane de droite, du milieu, machin, et t'as plusieurs conditions pour gagner, et les cartes, quand elles s'installent sur le plateau, leur position est ultra importante. Il y a 1 milliard de paramètres en fait à garder en tête à tout moment. Tu peux rajouter des items sur les cartes, exactement comme dans Dota. Donc tu peux booster un héros, etc. Les héros respawn, donc tu tues un héros, t'as un système de héros et de cartes alliées en fait. Enfin, le système est assez compliqué. Donc du coup, les héros vont revenir une fois qu'on te les a butés, mais tu pourras les remettre à un moment donné, exactement comme le respawn dans Dota. Donc d'accord. ils ont vraiment fait ça pour les fans de Dota. Ça se voit à mort. Derrière, je pense que vraiment les mécaniques de jeu, ils ont été un peu loin dans le délire, donc j'attends que ça sorte. Donc ça sort le 28 novembre, pardon, et il est disponible à 18 balles en précommande sur Steam actuellement. Évidemment, il ne sera que sur Steam, Valve oblige. Mais j'attends d'avoir des avis de gens normaux et pas des poulpes de Dota 2. Moi, j'aime pas les TCG, donc j'ai arrêté Hearthstone, j'ai joué contre Rhin, coucou, il y a pas très longtemps, et ça a été un massacre, mais il voulait un ami pour faire sa quête, tu vois. Donc il a trouvé une victime, c'était c'était moi. Mais non, vraiment, j'ai un problème avec le concept même. Pour faire un deck, il faut que tu récupères des cartes intéressantes, etc. Et du coup, ça coûte vite très très cher. Et puis, t'as la randomisation. C'est un jeu de cartes, donc évidemment que t'as une part de hasard est hyper hyper grande, mais y compris dans la façon dont tu vas récupérer tes cartes. Et c'est là où j'ai un problème, parce que déjà, ça coûte 18 balles. Le jeu est pas gratuit, c'est pas un free-to-play. Donc, quelque part, c'est aussi pour limiter la porte d'entrée, pouvoir bannir les comptes des mecs qui trichent, j'imagine, etc. Mais en plus, les cartes vont être en vente sur le shop de Steam. Donc comment ça marche, vous mettez directement en vente les produits sur le Steam Store, pas le
sur le workshop,
le marketplace, pardon.
Ah, le marketplace,
ouais, le marketplace, le nom me revenait pas. Exactement comme vous pouvez mettre en vente votre pantalon moche de PUBG que vous avez eu, que vous voulez vendre. Mais quand on voit quel prix ont atteint les trucs de PUBG, déjà par phénomène de rareté un peu débile, mais là sur les cartes de jeu là, ça va être n'importe quoi. Donc ça peut être un business à la Bitcoin, hein, mais allez-y maintenant, parce que je suis pas sûr que ça explose. Ça va être comme le Bitcoin, pour le coup, ça peut être très problématique très vite. Donc voilà, je suis hyper embêté, parce que je ne sais pas comment ça va se passer en termes de business. Est-ce que les cartes vont s'envoler? Est-ce que ça sera facile de se faire un deck? Au-delà même des mécaniques de jeu qui, moi, me paraissent hyper compliquées. Et puis, le marché du TCG, il est hyper encombré. Et pour moi, ils sont 2 ans à la bourre, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc voilà, donc maintenant ça sort à la fin du mois, vous aurez le temps de tester ça si vous avez un petit peu, 18 balles non plus, vous prenez pas non plus l'investissement, le risque du siècle, mais personnellement je suis hyper dubitatif, même si le produit a l'air intéressant. En revanche, vu la gueule du jeu, je suis pas sûr qu'on le voit débarquer sur mobile anytime soon, comme disent les Américains.
Et on termine cette section gaming avec une confirmation. On en parlait déjà la semaine dernière. Hein. A priori, c'est malheureusement un échec, un fail total pour Fallout 76.
Bah, c'est un étron, les enfants. Hein.
Ah,
c'est,
voilà.
Appelons un chat un chat. C'est de la merde.
C'est de la merde.
Donc là, il réussit quand même l'exploit extraordinaire d'être à 50% sur Metacritic sur PS4.
Ouch.
C'est pas beaucoup quand on sait que ça. Voilà, il y a les reviews américaines qu'on sait toujours un peu, comment dirais-je, large au niveau de la notation. Donc là, c'est une catastrophe. Ça monte à 55% sur PC avec des gens qui font genre oui, mais vous allez voir, avec des patchs, ça va être bien. Donc ça, c'est des mecs qui ont acheté Star Citizen, hein, on le sait. Je veux dire, il y a un moment, faut être honnête. Hein, quand tu vois la gueule du jeu, tu sais que ça sera pas bien. C'est pas un patch qu'il faut, c'est un Fallout 78. Donc non, c'est une catastrophe. Le truc est vraiment très mauvais. Il y a un excellent test sur Gamekult fait par notre Amigotose, qui a souffert. Hein. Il a été au fond de la mine avec sa pioche pour faire ce truc. Je ne l'envie pas. C'était vraiment la mission, ça croit.
Merci Alit, c'est de sacrifier, en fait.
Exactement. Et donc, du coup, non, n'y allez pas. Même si vous êtes ultra fan de Fallout, rachetez le 4, refaites un vieux, j'en sais rien, mais ça, il faut pas. Ne leur donnez pas d'argent, ne les encouragez pas.
Allez, on passe du côté des apps, et je voulais parler très très vite d'une app dont j'ai parlé cette semaine sur Geekzone dans un petit papier, une app de nos amis français de Mix Vibes, et qui s'appelle Remix Video. Comme tu le disais en préparant cette émission, c'est vraiment de la niche, hein, puisque c'est du VJing, c'est pour faire du mix vidéo,
voilà.
Comme son nom l'indique.
Quand vous faites du mix vidéo le week-end, vous êtes dans une niche, les mecs, il faut le savoir quand même. Hein.
Alors je voulais en parler, pourquoi ? Parce que c'est un outil qui m'a vraiment séduit, il est facile d'accès, il est relativement puissant et il est pas très très cher. Je vais pas re-rentrer dans les détails parce que j'ai déjà tout expliqué dans le papier, donc je vous inviterai à aller lire le petit papier que j'ai fait cette semaine. Mais disons que c'est un des meilleurs softs que j'ai pu tester, en tout cas dans cette gamme de prix-là. Il est vendu pour la version normale à 69$, bradé actuellement à 49$, donc avec la version normale, vous avez accès à tout. La seule chose que la version pro ajoute en plus, c'est la disponibilité du soft sous forme de plugin VST pour pouvoir l'intégrer directement dans votre DAW, et également une compatibilité avec des standards d'échange d'informations vidéo pour les professionnels qui bossent à fond là-dedans. Donc c'est pas super intéressant pour l'utilisateur casual, on va dire, mais c'est vraiment un soft, voilà, c'est prise en main super facile. Ça fonctionne avec un système de layers, donc t'as plusieurs couches sur lesquelles tu peux envoyer plusieurs types de vidéos. Alors tu peux utiliser les vidéos qui sont disponibles dans leur bibliothèque, qui est assez riche, mais tu peux aussi créer tes propres loops vidéo et donc animer tes soirées dansantes avec du VJing.
J'ai hâte.
Voilà. Les Aperomix vont se renouveler maintenant avec des animations
avec
vidéo.
Avec des écrans géants, les gars.
Voilà. Bref, j'en dis pas plus. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur le papier. Il y a également des démos vidéo qui vous montreront un peu comment tout ça fonctionne concrètement. Mais voilà, je rappelle le prix. Donc c'est 69$, bradé à 49$ pour le moment. Et pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment une bonne affaire. Tu voulais nous parler d'InnoReader, notre lecteur de flux RSS préféré.
Oui, parce que aujourd'hui vous écoutez ce podcast et c'est Black Friday. Il y a des promos partout qui en veulent à votre argent.
C'est vrai.
Et on vous donne des trucs gratuits qui sont pas pas vraiment gratuit parce qu'il faut vous abonner. InnoReader fait partie du tas. Je vous ai relinké le dossier que j'ai fait l'année dernière sur InnoReader. Qu'est-ce que c'est? C'est notre lecteur RSS favori qui nous permet de trier toutes les news avec amour, hein, parfois un peu violemment, hein, parce qu'il y a d'ailleurs il y a des sites qu'il faut que j'enlève maintenant. Hein, ça commence à se voir. Et qui propose pour l'abonnement actuel de rajouter 6 mois. Donc vous abonnez pour 12 mois, vous avez 6 mois gratos. Je voulais juste le préciser parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde sur Geekzone. C'est un excellent outil et même surtout à titre professionnel parce qu'il y a un système de filtres, etc. qui vous permet de faire de la veille pour un prix très très raisonnable, y compris en équipe. Il y a des versions équipe, etc. Donc allez fouiller. D'un côté, vous pouvez lire le dossier où il y avait une interview d'un des fondateurs et en plus, vous pourrez du coup regarder si ça vous intéresse, si vous ne connaissiez pas.
Voilà, moi je l'ai préféré finalement à Newsblur parce que je l'ai trouvé beaucoup plus véloce.
C'est ça.
Après, c'est vrai que l'interface est quand même, il y a un paquet d'options. Ça peut être un petit peu déconcertant au début quand on n'a pas l'habitude, mais on peut s'en servir très très vite sans avoir besoin d'aller justement mettre les mains dans le cambouis tout de suite.
C'est la force et la faiblesse. Ouais. C'est-à-dire voilà. Que quand tu cliques sur le bouton Settings,
oui, ça fait un peu peur.
Mais bon, alors si vous êtes comme moi, vous y allez une fois et puis vous y retournez l'année d'après et vous
apercevez.
Comme ils rajoutent des trucs sans arrêt, ils bricolent et là tu te dis ah il y a des nouvelles options, j'avais pas vu. Donc c'est effectivement au départ, je confirme, ne paniquez pas, mais ça ira, vous allez voir, hein, ça va très très vite.
Et puis pour terminer du côté des apps, parce que tu t'es rendu compte qu'on en avait jamais vraiment parlé, LumaFusion, la killer app de l'iPad Pro.
Tintin pour l'interrogation. Bah ouais, LumaFusion, j'étais persuadé de vous en avoir parlé, a priori non. Alors si vous retrouvez un truc dans les archives, dites-le nous, mais moi j'ai rien retrouvé. J'ai fait une news cette semaine juste pour dire que effectivement ce soft était ultra impressionnant pour les amateurs de montage vidéo qui feront peut-être du vidging après, tu vois, du coup ça se rejoint. Et du coup LumaFusion, c'est une sorte de Final Cut, une sorte de première sur vos genoux, hein, puisque ça marche aussi sur iPad, mais ça marche aussi sur téléphone, sur un petit iPhone. On arrive à faire des trucs assez violents malgré l'interface rikiki, et je voulais en parler parce qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties avec la sortie du nouvel iPad Pro où les mecs testent la bestiole pour faire du montage 4K ultra violent, et les gars font des têtes rigolotes à base de ah ouais, ça va vite quand même. Le scrubbing, par exemple, quand vous déplacez dans la vidéo que vous êtes en train de monter, est instantané. Et bah, si vous avez déjà monté sur une vraie machine, y compris, surtout d'ailleurs sur un MacBook Pro, c'est là où le truc se transforme en hélicoptère. Non, comment tu l'appelles, l'héliport du Shield, comment il s'appelle cette bestiole?
Le hélicarrière.
Hein. Le hélicarrière, voilà, ça fait le même bruit. Hein. Un MacBook Pro qui monte une vidéo, c'est. Et ça, il décolle, il veut se barrer, il a mal, il souffre. Et bon, bah là, l'iPad, vous collez votre. Il n'y a pas de ventilo à l'intérieur, donc essayez pas de l'entendre. Mais du coup, c'est ultra impressionnant de le voir fonctionner. Et je vous ai mis donc une petite news avec plein de vidéos à l'intérieur pour aller voir ce que ça fait. Et le truc qui généralement achève les gens qui sont de la partie, c'est que ça coûte 22 balles.
Ah oui.
Voilà. Tu vois. C'est, quand même, hein, oui. Alors, et oui, il y a des options pour acheter des packs, des machins, mais oui, pour 22 oui. balles, t'as un soft qui te permet de faire des trucs de folie sur du multipiste, etc. Donc, c'est fait par des pros assez violents. Je vous laisse aller regarder tout ça avec vos petits yeux. Franchement, c'est une app à connaître et j'étais persuadé de vous en avoir parlé. Voilà, c'est réparé, et sur le site et en podcast. Maintenant, si vous faites pas de montage vidéo, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Commencez d'abord par le VJing, peut-être.
C'est ça, avec des trucs préfets.
On va parler culture très vite. Une des bonnes nouvelles de mon arrivée en Belgique il y a quelques mois, c'est que j'ai pu rapidement rentrer en contact avec le service de presse de Disney. Donc ça veut dire que maintenant j'ai la possibilité d'aller voir les films de Disney.
Ce que t'as jamais réussi à aller faire en France. Hein,
voilà, exactement.
Merci Disney France. Oup, oup, high five les mecs, trop merci.
Et donc j'ai eu la chance de voir Ralph 2.0 en français. C'est donc Ralph Breaks the Internet. Est-ce que tu avais vu le premier Wreck-It
ouais,
Ralph?
Tout à
T'en
fait.
T'en avais pensé quoi?
Moi j'avais bien aimé, mais alors j'ai un problème et je me faisais la réflexion tout à l'heure. J'étais sûr que t'allais me poser cette question et je ne me rappelle pas de grand chose. Hein. Je me rappelle que j'ai passé un gros moment, mais après c'est je m'en rappelle pas.
Bah en gros c'est l'histoire dans le premier, hein, c'est l'histoire d'un bad guy de jeu vidéo qui essaye de trouver en fait une médaille pour aider une petite nana qui s'avère être en fait une pilote surdouée. Et donc c'est un peu un espèce de prétexte pour circuler un peu dans des jeux vidéo et faire des références pop culture, etc. Mais c'est fait de manière plus subtile en fait que dans un certain Ready Player One par exemple. Et le 2.0, bah le 2.0 sort des jeux vidéo pour aller carrément sur Internet. Et bah moi je l'ai vu et je me suis bien éclaté. Je dois bien reconnaître que j'avais déjà bien aimé le premier, mais j'ai tout autant aimé le deuxième. C'est la même team, hein, donc on change pas une équipe qui gagne. C'est toujours nos amis Phil Johnston et Rich Moore à la réalisation. C'est toujours signé Disney. Évidemment, on retrouve Sarah Silverman à la voix de, avec la, pour la voix de la petite princesse Vénélope, John C. Reilly pour la voix de Ralph. Et donc bah voilà, il y a cette fois-ci une sortie vers Internet avec évidemment plein de références, mais des références vraiment très malines, très sympas, avec un vrai scénar qui tient la route, une vraie histoire. C'est pas juste un prétexte pour faire des références pop culture. C'est drôle, c'est touchant. L'anime est vraiment nickel. Il y a quelques bonnes idées, quelques bonnes trouvailles de scénario. Là où je voulais pousser une petite gueulante, et j'aurais carrément mis un jingle rant si j'avais eu la possibilité, mais comme tu vas en faire mais un plus tard, on va se le garder.
Non, tu peux. Mets-toi un petit jingle. Vas-y.
Allez, un petit juste un petit c'est de la merde.
C'est de la merde.
Voilà. Merci Jean-Pierre Caff. Donc, la gueulante, c'est qu'en fait, le film, il est sorti depuis le 21 novembre aux États-Unis. Il va sortir ici en Belgique le 12 décembre. Et j'ai regardé sur Allociné, il sort le 19 février en France. Ah. Et je comprends pas. Je comprends pas, parce qu'après, on vient pleurer que, ouh, mais le piratage, tout ça. Mais quand vous avez un film pareil, qui en plus est destiné aux enfants, donc idéalement, il faut le sortir dans la période de Noël, tu vois, c'est quand même le truc un peu malin.
Bah non,
ça sort le 19 février en France, on sait pas pourquoi, il y a 4 mois de décalage, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu dommage, d'autant plus que, bah, d'ici là, je pense qu'il sera sorti effectivement en Blu-ray aux États-Unis, donc, il sera disponible chez nous par des moyens.
Bah, il sera sur Internet.
Voilà,
Ralph,
il sera sur Internet. Voilà.
Les mots clés. Bravo Disney.
Bref, si vous avez l'occasion de le voir, si vous avez bien aimé le premier, franchement, je recommande. Comme je disais, voilà, c'est un bon mélange de choses drôles. Et puis il y a une scène post-générique qui est vraiment excellente. Je vous en dis pas plus.
Donc t'as raison. En fait, je viens de réaliser que tu nous teases un film que nous on verra. Enfin, la majorité des gens qui écoutent ce podcast ne pourront pas voir avant 2019.
Belgium Power, quoi.
Ah ouais, non, bravo. Non, je sens il y a une espèce de, tu vois, t'es en train de bosser le flow belge là. Je vois bien le problème. D'accord, ok. Ah, c'est comme ça.
Allez, on va passer du côté de la tech avec un Kickstarter d'un instrument de musique, c'est ça, si j'ai bien compris?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe,
c'est n'importe quoi. Alors, à la base, c'est un truc dont je me moque éperdument parce que je ne connais pas, en fait. C'est pas que je m'en moque, c'est que je ne connaissais pas.
Tu ne fais pas de
musique. Je ne fais pas de musique et le monde s'en porte tellement mieux, si vous saviez. Mais la blague, c'est que hier, nous avons eu un utilisateur de Geekzone qui s'appelle Soin de Soin, le bien nommé.
Ouais.
Je trouve que c'est pas mal pour parler de musique, qui est venu nous dire, attention, il y a un Kickstarter sur un truc extraordinaire, il faut pas le rater. Et moi, j'ai vu Kickstarter, truc extraordinaire, et j'ai fait genre, hop, ça me sentrait, attention les arnaques sur Kickstarter, ça va bien maintenant. Et du coup, on a un petit peu discuté, je me suis rencardé, j'ai été voir ce que c'était, donc je voulais vous en parler, parce que c'est assez rigolo. Donc, ce qu'il voulait nous parler, c'est d'un produit de chez Aken Audio, que vous ne connaissez pas, hein, c'est pas comme Yamaha, enfin, les grandes marques de synthé, tout
ça. Même Aken, moi, je ne connais pas, pour te dire, donc voilà.
Et ben oui, c'est normal, personne connaît, ils sont trois, les mecs. Ils sont trois, ils font de la ZIC ou des trucs autour de la ZIC depuis 30 ans, personne ne les connaît parce que ils sont plus luthiers que fabricants de synthétiseurs.
Ah oui.
Donc ils fabriquent tout à la main. Donc tout instrument venant de chez eux est fait à la commande. Alors qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils fabriquent deux trucs à la base. Ils fabriquent en fait un produit qui s'appelle le Continuum Fingerboard, qui est, vous rappelez, j'ai parlé de Rolly, qui était un truc synthé un peu novateur, etc. J'ai mis des vidéos sur Geekzone. Eh bien, c'est un peu dans la même veine, mais encore plus taré. C'est-à-dire que là, même si vous savez jouer du piano, bah c'est génial, mais ça vous servira à rien. Enfin, vaut mieux avoir des solides bases en musique, mais c'est pas ça qui va vous sauver. Et c'est une surface de jeu ultra tactile avec un synthétiseur de fou qui est fait à l'intérieur, donc tout est fait maison. Leur synthé, leur moteur de synthé s'appelle The Egan Matrix Sound Engine, qui est dispo depuis 2008. Et en fait, le produit lui-même existe depuis 2002, mais donc est devenu ultra puissant depuis 2008 avec l'ajout de ce moteur de son. Mm-hmm. Là où vous allez comprendre pourquoi pas grand monde connaît la bestiole, c'est que déjà, il faut le commander parce que il y en a pas en stock jamais.
C'est fait à la main,
voilà. Et ça coûte entre 4 400 et 7 000 euros.
Ah oui!
Ah bah oui.
Il faut vraiment en avoir besoin, c'est comme l'iPad Pro en fait.
Voilà, hein, c'est fait à la main, monsieur, tu vois. Et les iPad Pro même pas, tu vois. Mais là, 7000 balles, donc c'est la version avec 80... Enfin, pas full size, j'allais vous parler de nombre de touches, mais c'est complètement débile sur ce produit. On faut parler en octave, entre guillemets. Mais à 4400, vous avez, vous, on vous met une demi-baguette, hein, d'accord, on vous met un demi-produit. Et donc, sur Kickstarter, ils ont sorti un projet qui s'appelle le Continue Mini. Allez, ils ont essayé de faire un jeu de mots, c'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est pas facile à prononcer. Ouais.
Ça marche pas super, ouais. Mais du coup, ça coûte $600.
Ah, c'est déjà plus abordable.
Voilà, c'est tout petit, ça joue pas de la même manière. Ils ont réimaginé leur truc. Alors moi, je trouve que ça fait un peu de cheapos. Pour la gueule du produit, me fait pas rêver du tout. Mm-hmm. Comme ils font tout à la main, bah t'as de la grosse vis, de la grosse plaque en métal usinée. C'est pas magique. Donc la conception a commencé en 83 à l'université d'Illinois. Et ils ont bossé a priori sur le concept entre 83 et 98, ce qui explique que un des fondateurs, Leopold Aiken, est en fait prof là-bas à la base. Donc ceci explique cela. Du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler parce que le projet me fait marrer, parce que là, je crois qu'on est vraiment dans la nerditude ultime. Les mecs font un truc à la main chez eux. Ils ont jamais cherché à industrialiser. Ils prennent des commandes comme ça vient et personne leur a jamais dit mais les gars, vous voulez pas aller ouvrir une usine? Faire un design un peu plus sexy, etc. Non, pas du tout. La surface, en fait, pour la version à 7000 balles, là, c'est un tapis en néoprène, en fait. Ce qui est important, c'est ce qui est dessous et le synthé qui est branché derrière, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc, c'est impressionnant. Derrière, quand on creuse, en fait, on s'aperçoit que l'instrument est assez connu des keyboardistes un peu pointus. Un des mecs qui est les plus fans, c'est Jordan Rudess qui bosse pour Dream Theater, qui est un progressive metal band, pardon. Alors, tu vois, tu dois connaître, hein. Non, oui, non. Bon, bah voilà, tu vois.
Je crois que c'est plutôt Mr. P, en fait, qui est fan de ce genre de groupe.
Mais alors, tu vois, la blague, c'est que c'est le mec le plus connu. Donc, après, ouais, derrière, j'ai trouvé des musiciens indiens, machin. Donc, il y a pas de grand nom qui a fait la promo du truc. C'est pas ultra populaire. Mais bon, ça m'a fait marrer de vous parler de ça. Allez voir, je vous mets dans le billet qui accompagne le podcast des petits liens pour aller voir tout ça, y compris le thread Geekzone qui parle du Kickstarter. Voilà, vous me donnerez votre avis. Il y a des petites vidéos assez impressionnantes de son, par exemple, de mecs qui jouent de la guitare, qui pètent de la guitare, enfin des instruments à cordes qui sont pas vraiment des instruments à cordes puisque les sons n'existent pas, mais c'est des trucs que tu peux pas faire avec un synthé finalement, ouais, que ouais, tu peux presque faire avec un Roly, mais eux tu peux vraiment gratter la surface comme tu gratterais une corde presque parfois, et le synthé est suffisamment puissant pour réussir à interpréter tout ça en temps réel. C'est assez rigolo. Maintenant, c'est totalement de prix, quand on est un petit peu fan de techno, c'est pas mal de creuser, d'aller voir que ce genre de truc existe encore.
Oui, par curiosité, quoi.
Exactement.
Allez, on passe à Valve qui arrête le Steam Link.
Oui, salut Steam Link, au revoir, merci.
Bon alors
en fait, ils ont décidé de se concentrer sur la version software qui va aller se mettre dans votre téléphone Android, parce que iOS n'a pas voulu, Apple, apparemment, n'est pas très content de la façon dont le soft gère la sandbox d'iOS, donc ça sera pour plus tard, peut-être. Mais en tout cas, le Steam Link, en revanche, que vous avez peut-être déjà, va continuer d'être supporté par Valve. Ils ont dit qu'ils allaient continuer à s'occuper du soft. Alors après, sur les produits qui ont été arrêtés d'être fabriqués, on sait comment ça se passe assez rapidement, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, si vous n'en avez pas, c'est qu'il y a des promos genre de folie. Quand je dis de folie, c'est que le truc se trouve à 3 balles. Hein. Vraiment. Il y avait des promos à 2 euros et quelques. Je ne sais plus où c'était. Ça coûtait plus cher en frais de port pour vider les stocks. Donc, il est sold out à peu près partout, sauf sur la boutique de Valve, a priori. Je vous laisse aller regarder. J'ai pas voulu mettre de lien parce que j'ai pas trouvé de truc où il y en avait là maintenant in stock. Donc, j'ai l'impression que les gens se précipitent parce que la solution fonctionne très bien et reste une des meilleures solutions du marché. Quand on sait ça, enfin, en tout cas, quand on joue sous Steam et même en bricolant, on peut rajouter d'autres trucs. Donc voilà, et n'oubliez pas que si vous voulez faire ça à la main, c'est un peu du bricolage.
Ouais.
Donc ça, c'est plus... Enfin, moi, en tout cas, j'ai testé pas mal de trucs, y compris les solutions avec Nvidia Shield et compagnie. Et c'est ma solution de prédilection quand je veux jouer à un jeu PC vautré sur le canapé. J'ai pas trouvé d'équivalent qui fonctionne aussi bien pour le moment. Donc voilà, il y en aura plus bientôt. Allez-y. Enfin, sinon, je pense que ça va coûter bien plus de 3 balles de case, ouais, très très vite.
Et on termine cette partie tech avec des news de clavier mécanique, ça alors.
Alors ça, c'est fou. Alors déjà, je pourrais faire un podcast de une demi-heure avec les gens qui te disent non, bah d'ailleurs, oui, mais pourquoi sur pourquoi ces claviers sont mécaniques, oui, mais pas complètement. Il y a des gens qui disent que c'est pas des claviers mécaniques et tout. De quoi t'on parle? On parle des claviers Topré.
Ah.
ce sont mes claviers préférés, hein, donc pour ceux qui ne savent pas, Topré, c'est un truc qui est complètement introuvable en Europe, donc je les importe d'Asie à des tarifs absolument prohibitifs, parce que je n'ai pas le choix à la base, ou je les achète quand je suis dans le coin. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ça commencerait peut-être enfin à bouger du côté de nos amis japonais, puisque donc la marque est japonaise à la base, c'est des fabricants de caoutchouc, faut quand même le savoir, et ce qui fait la spécificité du Topré, c'est la façon dont les Switch fonctionnent, avec justement des petits dômes en caoutchouc fait maison, ouais, ouais, qui sont en dessous et qui donnent un feeling assez incroyable au clavier, et certains ayatollahs, n'est-ce pas, du Switch mécanique vont te dire, bah ouais, c'est comme un clavier à membrane dégueulasse, ça sert à rien. Donc généralement, c'est qu'ils n'en ont pas touché, hein, donc on peut pas leur en vouloir. Mais en revanche, pourquoi je dis que ça va peut-être arriver en Europe un jour, c'est parce que il y a enfin un magasin aux États-Unis, incroyable. Fujitsu, qui est un partenaire historique au Japon de Topré, va faire, enfin a déjà sorti un shop, je vous ai mis le lien dans la news, et ils ont du Real Force, du HHKB, et du coup on peut enfin acheter directement aux États-Unis ce genre de clavier. Du coup on peut rêver, et on peut peut-être se dire que ça arrivera du côté européen un jour. En attendant, vous pouvez aller voir des trucs compréhensibles, parce que je pense que vous êtes plus nombreux à parler anglais que japonais quand même, et pour aller voir les sites web, c'est plus pratique. Ça me permet d'enchaîner sur une rumeur de refresh du HHKB qui serait prévue pour l'automne 2019. Alors c'est un petit clavier ultra confidentiel, mais que tous les fans de clavier mécanique connaissent, c'est un peu le, comment dirais-je, le Saint Graal. Pour certains, c'est une bête bizarre parce qu'il manque plein de touches, donc les mecs disent, mais comment vous pouvez travailler là-dessus, bande de tarés. Et quand tu as compris le concept du clavier, qui est en fait de ne jamais bouger tes mains pour pouvoir taper sans te brousiller les poignets, et donc j'ai les problèmes de tunnel, canal carpien, tout ça, je voudrais pas parler de trucs de vieux déjà, hein, mais on y vient quand même, hein. Donc il y a des vieux monsieur qui nous écoutent et qui font ce podcast. Bref, du coup ce produit est assez intéressant quand on arrive à s'y faire, et il est absolument introuvable à part l'importer pour des tarifs très 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 chers chez nous. Donc du coup voilà, je pense que nous allons suivre ça de très près.
Et c'est l'heure du rant, et cette fois-ci c'est encore une fois Activision qui en prend plein la tronche.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Ah, Activision, bravo, on est fiers de vous.
Toujours au top.
Alors, je me suis dit, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'écris même un truc, tu vois, pour vraiment m'énerver dans les meilleures conditions? Non, alors Activision, en fait, pourquoi on va leur taper dessus? Parce qu'on va parler de Call of Duty Black Ops 4, qui est certainement le meilleur Call of Duty.
Oui, c'est ce que j'allais dire, depuis... t'en avais déjà parlé, ah, ouais. Tu nous avais dit que c'était vraiment un tout, tout bon titre.
Et voilà, et moi, en fait, tu vois, j'ai mal pour les mecs qui bossent sur ce genre de jeux vidéo, qui se défoncent pour faire un titre qui cartonne, et derrière t'as des marketeurs qui font, eh ben maintenant tu vas nous mettre plein de trucs débiles à l'intérieur, ça va être génial. Ça me rappelle des mecs qui faisaient des magazines à qui on essayait de vendre des OP à la con, je sais pas si ça te rappelle des souvenirs.
Si si, tout à fait.
Eh bien écoute, là c'est magnifique, puisque les mecs en fait ont rien compris, hein. En tout cas les marketeurs de chez Activision sont toujours aussi débiles. On se retrouve avec un jeu payant cher, enfin je veux dire il est full price ce jeu à la base, avec toutes les mécaniques de free to play à la Fortnite à l'intérieur, en pire. Quand je te dis en pire, c'est que c'est grindy, c'est cher, et pour débloquer des skins qui sont relativement pourris, ils essayent de tout mettre au chausse-pied là-dedans, et ça se passe très 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 mal. Comme j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, parce qu'on est déjà très long cette semaine, je vous link un petit papier d'Eurogamer qui détaille ça pas mal, et qui à l'intérieur lui-même inclut à la fin du papier une vidéo d'un fan, hein, on va pas dire le contraire, le mec il a poncé le jeu, et il n'est pas content. Ah. Et il n'est pas content du tout, parce que vraiment c'est prendre des gens pour des cons. Alors attention, ça ne va pas attaquer le gameplay du jeu, ils sont pas aussi débiles que ça, mais bon, c'est Activision, donc plus rien ne m'étonne, hein, tu vois. Donc un gun OP pour la modique somme de 12€, je suis sûr que ça viendra un jour à ce rythme là donc il ne faut pas oublier qu'Activision c'est une boîte qui n'est
veut motivée, faire de la thune,
voilà, qui n'est motivée que par les petites lignes en bas chaque année pour savoir si les actionnaires vont être contents. Que le patron d'Activision est ultra connu pour être greedy comme c'est pas permis. Donc je pense que là on va vraiment avoir un truc à suivre. Ils ont déjà essayé de backtracker un petit peu. Alors, bah, excusez-moi, je fais des Jean-Claude Van Damme. Ils ont déjà essayé de faire en sorte que le grind pour avoir les nouveaux objets soit moins violent. Mais très honnêtement, les fans ne sont absolument pas convaincus. Et du coup, le plan, vous avez acheté votre jeu 60 balles sur console, plein pot, et derrière on vous demande de rajouter des billets de 15 dollars minimum pour aller acheter des points, si des Call of Duty points, pour débloquer des trucs à l'intérieur, et on te dit mais non, tu vas avoir, tu peux les avoir gratuits aussi, mais en fait il faut jouer toute ta vie en fait et arrêter de dormir et de faire des trucs. Je pense que ce n'est pas très malin. Ça me rappelle un peu l'histoire Electronic Arts Star Wars de l'année dernière.
Mais j'y pensais justement, ouais.
Voilà, donc les gens apprennent pas, en tout cas dans ces boîtes-là ils apprennent pas, et il y a personne, il y a pas un product manager un peu moins con que la moyenne qui est venu dire attendez les gars, c'est complètement débile. Donc bah écoutez, continuez de jouer à Blackout pour 30 balles, c'est-à-dire que bah là vous sur PC, on peut le trouver quand même en promo assez facilement. Là déjà il est avec le Black Friday d'aujourd'hui, il y a des promos à peu près sur tous les supports. Et surtout, surtout, bah du coup, ne leur donnez pas un dollar sur la version multi-normale pour acheter des packs, etc. Il faut voter avec votre porte-monnaie, hein, c'est le seul truc à faire. Et leur expliquer que bah ça, non les gars, ça vous le remballez, on n'en veut pas.
Et c'est la fin de ce 67e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine dès 8h pour une nouvelle sélection de l'actu. On vous rappelle au passage, parce que c'est vrai qu'on oublie de le faire, qu'on a un petit Patreon, hein, qu'on aime bien avoir de temps en temps des petits sous.
Qu'on aime d'amour.
Voilà.
D'ailleurs, on n'a rien fait. Il y avait un Patreon Day au début de la semaine et j'ai vu le mail très tard. Donc, il fallait dire merci à tous les patrons. Donc, merci à tous les patrons.
Voilà. Et on leur a filé un petit cadeau il n'y a pas très longtemps. Bon, c'était pas grand chose, mais on s'est dit qu'on allait quand même essayer d'en faire plus souvent.
Exactement.
En l'occurrence, c'était la conférence sur le Marvel Cinematic Universe, mais voilà, donc si vous voulez nous soutenir, si vous voulez soutenir le site, la production des podcasts, etc., n'hésitez pas à passer sur le Patreon, même un dollar, enfin un euro tous les mois, c'est déjà ça.
Je reprendrais bien pour un dollar.
Voilà, exactement.
Alors attention, je précise quand même que la conférence dont tu viens de parler, tu l'avais refait pour l'occasion.
Et ouais, tout à fait.
C'était quand même du taf. Hein.
Oui, oui, c'est 2 heures de conférence sur toute l'histoire de Marvel Studios, donc bah voilà, pour ceux que ça intéresse, ça vaut peut-être la peine d'aller jeter un coup d'œil. Nous, on se retrouve donc, comme je l'ai dit, vendredi prochain. Et puis d'ici là, bah bon week-end, CAF.
Bon week-end.
Salut.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.